l'hebdo des régions, avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers.
Bonjour et bienvenue sur Radio Immo pour ce nouveau numéro de l'hebdo des régions. Comme à notre habitude, on va faire le tour de ce qui se passe dans l'univers de la promotion construction, des infos, des actus, des chiffres sur une région donnée. En l'occurrence, aujourd'hui, on part en Normandie en compagnie de notre partenaire la FPI, Caen, Rouen, Le Havre. Et pour animer cette émission, je suis en compagnie de Christophe Bordet. Mon cher Christophe, comment allez-vous ?
Je voulais revoir ma Normandie.
Mais c'est merveilleux.
Bah oui.
Vous partez avec nous en voyage.
Absolument.
Alors, sans faire durer davantage le suspense, je vous laisse nous dire qui partagera ce plateau à nos côtés.
Eh bien, écoutez, Christophe Desmouliers sera avec nous. Il est président de la FPI Normandie, justement. Bonjour et merci d'être là. Laurent Potier est également là, président de la FPI Caen, Le Havre, et puis Guillaume Basile, qui est vice-président d'Olonne, l'observatoire d'Olonne. Il nous dira ce que fait cet observatoire au quotidien sur le logement, et notamment le logement neuf, bien évidemment, dans quelques instants maintenant. Voilà.
Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vous propose de démarrer par votre édito, mon cher Christophe. Jingle.
L'hebdo des régions, avec la Fédération des promoteurs immobiliers.
Chers amis du neuf, Dieu que l'ancien est beau dans cette verte Normandie. Quel bonheur pour les yeux de voir des belles maisons normandes, ces maisons à colombages, aux toits de chaume, en rubané d'iris. L'authenticité, il n'y a rien de tel. Ajoutez quelques pommiers en fleurs et quelques vaches sur la photo et voilà le de grande qualité, émouvantes dans leur simplicité et leur grande diversité, sont les témoins de cette civilisation rurale dont nous sommes tous à peu près issus. Ce sont aussi les maisons ou des maisons construites avec des matériaux locaux, déjà à l'époque. On revient à ça aujourd'hui, c'est quand même formidable. Des moellons de silex pour les soubassements, les bois de chêne pour les colombages, la terre argileuse pour les murs, la chaux et les enduits de finition, les roseaux des marais liés avec des tiges de ronces, tirés des haies pour les couvertures. Un autre temps. Alors pardonnez-moi d'être un peu nostalgique, mais que reste-t-il de ce savoir dans les constructions neuves de Normandie ? J'espère que vous allez nous le dire dans quelques instants, bien sûr, parce que, sans être un grand spécialiste, j'ai le sentiment que les pentes des toits de ces nouvelles maisons correspondent un petit peu à cette époque, même si l'ardoise a remplacé les roseaux. Et alors, pour le reste, tout se ressemble. En tout cas, c'est mon avis, et ce n'est que mon avis. Sinon, que vous dire sur la Normandie et le logement en ce moment ? Eh bien que, comme beaucoup d'autres régions de France, le logement, il n'y en a pas assez, d'autant plus que beaucoup de Parisiens, par exemple, décident d'aller habiter dans l'Ouest avec la Covid et les confinements. Les prix grimpent avec des augmentations qui dépassent parfois les 10% selon les endroits. Nous allons évidemment parler de tout ça avec vous.
Voilà. Merci Christophe.
J'espère que ça vous a plu.
Alors je vais interroger votre homonyme Christophe Desmouliers. Qu'avez-vous pensé de cette petite balade, cet édito poétique qui présente votre région ?
Et nostalgique.
C'est toujours bien d'avoir une approche bucolique quand on parle de notre bah marché. Oui. Effectivement, ça fait partie de notre environnement. Notre environnement quand on se balade le week-end, notre environnement où on peut habiter. Mais malheureusement, nous, promoteurs, construisons assez peu de maisons, pas assez d'ailleurs, et assez peu de maisons, je dois le dire, sur le modèle des longères que vous avez évoquées. Nous sommes plutôt des constructeurs de collectifs, et il y a eu assez peu même dans l'histoire des collectifs avec du chaume, avec du colombage. Effectivement, oui, à Rouen, on a beaucoup d'immeubles en colombage, mais dans l'histoire, en tous les cas, depuis deux siècles, on les utilise malheureusement assez peu.
Est-ce qu'on utilise l'argile dont je parlais, là, cette terre argileuse de la région, aujourd'hui encore, pour construire ou pas du tout ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Hein.
Ouais. Aujourd'hui, nous construisons. C'est un temps révolu. L'argile nous embête pour construire, au contraire, puisque malheureusement, dès qu'on a un peu de pluie, même s'il y en a très peu en Normandie, bien évidemment, comme vous le savez.
Non, mais tout le monde le sait.
Tout le monde le sait. Donc, malheureusement, ça nous embête plutôt dans nos chantiers. Ça nous ralentit parce que dès qu'on a un peu d'eau, ça devient de la boue.
Eh oui. Alors écoutez, cher Christophe Desmouliers, on le rappelle, président de la FPI Normandie, je vous propose, comme à notre habitude dans cette émission, de nous donner quelques mots, le mot du président.
Oh, quelques mots d'abord, Christophe Doublier. Donc, je suis président de l'AFPI Normandie. Effectivement, j'ai cette chance depuis pas loin d'une dizaine d'années avec une petite interruption. Nous représentons quatre marchés principaux qui sont Rouen, Le Havre, Caen et la côte normande, bien connue de nos amis parisiens. Ces marchés représentent grosso modo, et on en reparlera après, 3000 ventes de logements et nous sommes un producteur important comme partout en France de logements sociaux. La Normandie est effectivement une région qui est attractive aujourd'hui et qui l'est de plus en plus évidemment avec la Covid, puisque un grand nombre de Parisiens aujourd'hui souhaitent rejoindre notre belle région, avec par contre une priorité pour le logement ancien, puisque nous n'avons peu de stock, pas de stock physique, et donc les Parisiens qui souhaitent déménager vont par priorité dans des appartements ou des maisons disponibles, et donc dans le marché de l'ancien. Voilà une première présentation et on reviendra évidemment sur nos marchés.
Alors j'aurais aimé que vous me parliez en tant que président de la FPI Normandie du projet Un immeuble, une œuvre.
Ah, ça c'est en tous les cas pour ma part et puisque je suis également la FPI, je suis associé fondateur d'un groupe de promotion et c'est quelque chose pour lequel on est très attaché puisque pour notre société, nous avons décidé de le systématiser. Nous avons également construit nos bureaux où je suis actuellement, dans lequel nous avons intégré une salle d'art dont nous avons fait don à la copropriété et qui est gérée par le milieu associatif et de manière à développer le street art qui rentre dans des lieux fermés. Je souhaite également, et on a démarré cette démarche l'année dernière, que cette envie d'un immeuble, une œuvre soit généralisée au sein de l'FPI. On a des discussions, en tous les cas, qui ont été entamées et en particulier pour accompagner Rouen dans sa candidature à Rouen Capitale Européenne de l'Art.
Très bien, bah écoutez, en tout cas, on sent chez vous une forte appétence pour l'art et c'est vrai que dans ces temps troublés où l'art ne fait plus tant partie de nos vies, malheureusement, c'est génial de voir des initiatives comme ça.
Et c'est encore mieux qu'il fasse partie de nos immeubles en plus de nos vies puisqu'on ne peut plus les avoir effectivement dans notre vie.
C'est vrai que la culture n'est pas la priorité en plus. On le sent bien ces derniers mois avec cette crise. Et donc, c'est formidable que vous preniez ces initiatives, je trouve. En tout cas, j'avais une petite question par rapport à la fréquentation à Rouen. Et on l'a dit, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent vers la Normandie ces derniers mois. Il y a eu quand même, il y a un an et demi, deux ans maintenant, cette catastrophe industrielle à Rouen. Est-ce que ça, c'est oublié? Est-ce qu'il y a eu un impact d'abord pour vous? Et est-ce que c'est oublié? Et ça y est, ça revient, les gens reviennent.
Alors, l'impact dans nos marchés était très mesuré, quasiment imperceptible. Ça reste pour les Rouennais une blessure, de toute manière, avec une ville qui, de toute manière, vit avec son milieu industriel, avec beaucoup de questions politiques qui vont au-delà de cet accident, c'est de dire est-ce que nous acceptons aujourd'hui de vivre avec un employeur très important qui est l'industrie et la chimie qui nous entoure, puisque nous avons un port qui est en partie très actif, et qui est lié à cette industrie, à cette chimie.
Ouais. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on revienne sur Rouen après, mais que pour l'instant, on parte un petit peu sur Caen. Et pour ça, j'aurais besoin de Laurent Potier. Laurent, vous nous entendez?
Oui, très bien. Bonjour.
Bonjour, bienvenue parmi nous.
Bonjour, Laurent.
Donc oui, je suis Laurent Potier, je suis président de la FPI à Rouen à Caen et au Havre. Alors par rapport à votre magnifique édito normand, nous avons une particularité très forte à Caen et également au Havre, c'est que la guerre est passée par là il y a 75 ans.
C'est vrai.
Tous nos immeubles à pans de bois ont été démolis. Ce qui crée une particularité dans notre urbanisme où nous avons hérité à cette époque d'un urbanisme contemporain et de bâtiments contemporains. Donc on a Le Havre est quand même classé patrimoine mondial de l'UNESCO, mais nous avons effectivement un patrimoine historique pas du tout historique contemporain de 75 ans, ce qui crée des grosses particularités sur notre marché par rapport à Rouen, par exemple.
Donc, Ben là, il y a tout ce travail de réhabilitation. Enfin, vous, vous êtes dans le neuf, mais c'est vrai qu'il y a tout ce travail de réhabilitation, et notamment d'ailleurs au Havre, je crois, il y a pas mal de choses qui se font. Est-ce qu'à Caen, c'est un peu la même chose des bâtiments ou des friches d'anciens bureaux qui sont transformés vous participez un peu à ça ou pas du tout, vous?
très, très peu, parce que
Très peu, oui.
le patrimoine immobilier cannais est assez diffus. Il appartient essentiellement à des propriétaires privés indépendants ou certains bailleurs. Et en termes de bureaux, on a une requalification du patrimoine ancien qui est assez lente de par son histoire qui est assez contemporaine quand même. 75 ans, c'est à peine la fin de vie d'un immeuble traditionnel. Donc, certes, c'est un marché qui va apparaître dans les années à venir, mais qui n'est pas encore très opérationnel aujourd'hui. Ça fait partie
Ce qui
des.
est intéressant, Charlotte, je trouve, c'est cette histoire de. À Caen, c'est particulier quand même, ce logement neuf avec une majorité d'investisseurs qui viennent visiblement à Caen. Hein. C'est assez hallucinant. Combien c'est? 65%, c'est ça, d'investisseurs pour le logement neuf chez vous à Caen?
Alors, le marché cannais est assez équilibré dans sa typologie de logement. Nous proposons à peu près tout type de taille de logement. Et effectivement, la proportion d'acquéreurs de logements neufs représente, par des investisseurs bénéficiant de la loi de défiscalisation Pinel, représente 65% de la production de logements neufs. Ce qui est, je dirais, une tendance assez équilibrée de toutes les régions de France. Aujourd'hui, le logement neuf est évidemment majoritairement acquis par des investisseurs pour offrir des logements à la location privée.
Vous l'expliquez par l'éligibilité du secteur au dispositif Pinel,
Alors,
majoritairement?
c'est aujourd'hui, un investisseur, quand il fait l'acquisition d'un logement neuf, il le fait essentiellement pour bénéficier de la loi de défiscalisation Pinel. Oui, c'est une motivation principale.
Et j'en profite pour vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution de ce nouveau Pinel au 1er janvier 2021, qui vous oblige à construire au minimum trois lots accolés, non plus de la maison individuelle, même si encore une fois, je sais que ce n'est pas votre spécialité en tant que promoteur, mais quelles conséquences pour vous?
C'est une conséquence forte, puisque effectivement, les logements individuels ont une forte appétence pour les habitants d'une façon générale. Donc, cela a deux effets. Cela va réduire la proportion de logements vendus de logements neufs vendus à des investisseurs, afin de loger des familles dans des maisons individuelles. Puisque nos secteurs, à partir du moment où on va exclure les maisons individuelles du marché d'investisseurs, ça va réduire cette offre de logement à la location. C'est très clair. Donc c'est un vrai frein pour une agglomération comme Caen, où certes, comme le disait Christophe Desmouliers, la majorité des logements que l'on produit ne sont pas des maisons individuelles. Mais ça représente quand même une proportion pour certains d'entre nous qui était non négligeable et surtout correspondait à un vrai engouement de la part des habitants. Donc cela contribue à nous inciter à travailler sur comment proposer des logements en secteur urbain permettant de séduire les familles quand ce n'est pas une maison individuelle. C'est
Donc ça fait appel à
un
votre créativité.
vrai sujet, parce que effectivement, l'exclusion des maisons individuelles au dispositif Pinel va créer une fracture dans la production de logements pour le plus grand nombre.
On l'a bien compris, on vous remercie. Alors j'ai une question à vous poser, puisque votre particularité, au-delà d'être un promoteur et un gestionnaire de biens, ayant ses propres commercialisateurs, si j'ai bien compris, vous avez une attache assez forte en ce qui concerne les rapports que vous entretenez avec le logement social. Est-ce que vous pouvez nous toucher deux mots du Forum Nomade?
Alors effectivement, à Caen, nous avons un tissu professionnel assez, assez homogène, qui échange assez facilement. Donc, cela nous a conduit à créer, il y a déjà une petite dizaine d'années, le Forum Nomade, qui est un lieu d'échange entre les bailleurs sociaux et les promoteurs privés. On s'est très vite rendu compte que c'est nos deux mondes, tout compte fait, dans leur façon de construire des logements neufs, partageaient les mêmes difficultés quant aux délivrances de permis de construire, à la nécessité d'inspecter les règles et aux problématiques de loger le plus grand nombre, et en particulier de traiter les sujets de mixité urbaine. Donc, depuis déjà quelques années, ces échanges nous permettent de travailler conjointement quand l'occasion se présente, afin de proposer d'accélérer les critères de mixité urbaine. Donc, cela nous amène à régulièrement, alors d'abord à échanger, mais quand cela est nécessaire, de travailler ensemble, soit d'acheter des terrains à un bailleur pour construire des logements privés quand le secteur le nécessite, ou l'inverse, les bailleurs peuvent nous acheter des logements en bloc dans nos résidences pour contribuer à la production de logements sociaux afin de, je leur dis, traiter de la mixité urbaine et surtout également d'offrir une typologie de logements à prix maîtrisé avec des financements aidés.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la notion de logement social? Parce que dans l'inconscient collectif, c'est vrai que ça revêt une certaine réalité, mais en fait, c'est pas forcément que ce que l'on croit.
Alors, un logement social n'est pas exclusivement un logement appartenant à un bailleur. Ce n'est pas. On peut aussi entendre quelquefois le mot HLM. Donc, un logement social au titre de la réglementation et de l'urbanisme, cela peut être effectivement un propriétaire. Un logement appartenant à un bailleur, mais cela peut être un logement ayant un financement aidé. Dans certains cas de figure,
c'est quoi? C'est un prêt à taux zéro?
Peut-être des logements avec en PSLA, un terme qu'on utilise couramment. C'est un dispositif.
Qui veut dire?
Alors, prêt social, location, accession.
Merci.
Donc, cela permet à un potentiel acquéreur de passer par une phase. Avant l'accession, de passer par une phase de location afin qu'il puisse vérifier que l'acte de devenir propriétaire, avant qu'il s'engage définitivement, il passe par une phase location et ça lui crée un épargne pendant cette période.
Donc c'est une période assez courte, hein.
Alors c'est une période qui est au minimum de 6 mois, ça a été légiféré récemment. Et qui peut aller jusqu'à 1 ou 2 ans selon les cas de figure.
Donc, j'avais juste une question quand on parle de location-accession. Est-ce que cette politique, justement, elle est soutenue au niveau régional, par exemple? Est-ce que Hervé Morin soutient cette politique-là? Vous le faites avec la région? Comment ça se passe?
Alors, c'est plutôt une politique qui est portée par les collectivités locales. Donc effectivement, à Caen, nous avons un organisme qui s'appelle la Maison de l'Habitat, qui nous accompagne dans la construction des dossiers. La collectivité de Caen-la-Mer a également mis en place un dispositif d'aide pour faire profiter nos acquéreurs accédants d'aide de 2 à 4 000 euros selon les critères. Donc oui, effectivement, c'est, je dirais, à Caen, on a un tissu local qui nous permet de bien travailler conjointement tant avec les bailleurs sociaux qu'avec les collectivités pour produire cette proportion de logements sociaux en complément de la production de logements privés.
Notre principale merci beaucoup.
C'est bien des logements privés, mais selon les cas de figure, selon les quartiers, selon la typologie de population, nous avons un large choix de possibilités pour offrir toujours un logement à un occupant quel qu'il soit.
Merci Laurent Potier, merci. On le rappelle, président de la FPI Caen-Le Havre. J'aimerais qu'on, parce que le temps passe, comme vous le savez, on pourrait discuter des heures et des heures.
Ah ben j'avais pas vu.
Malheureusement, nous sommes aux prises de ce temps. J'aimerais qu'on interroge tout de suite Guillaume Basile pour la ville du Havre et notamment pour en savoir un petit peu plus sur cet observatoire Hollande. Déjà peut-être savoir ce que cet acronyme barbare veut dire.
Barbare, vous exagérez quand même.
Et quelle est son utilité? Ses missions et quels chiffres clés cet observatoire Hollande peut-il nous délivrer?
Oui, bonjour. Sous l'acronyme Hollande, on trouve une signification simple, c'est l'observatoire du logement neuf en Normandie. Le mot Hollande comporte deux N, neuf et Normandie. Cet observatoire existe depuis 10 ans, a été créé à l'initiative de la FPI. Et c'est un outil qui est vraiment intéressant et qui a une utilité. Donc, comme je l'indiquais, ce sont les professionnels, d'abord la FPI, ensuite rejoint par l'UNAM, qui regroupe donc les lotisseurs aménageurs. Et aujourd'hui, c'est un outil avant tout de partage entre tous ces professionnels. C'est un outil de mesure du marché. C'est vrai qu'on rentre dans un niveau de détail important qui nous permet d'année en année de dégager des tendances sur les zones attractives, sur les prix des logements, sur les tailles des logements, les tailles des parcelles libres de constructeurs. Et ça nous permet de voir aussi les impacts des politiques locales sur notre activité. Donc, le premier objectif d'Hollande, c'est ça, c'est de partager des données fiables, précises. Et le deuxième objectif, c'est d'être un lieu de partage avec les acteurs au sens large de notre activité, et notamment les collectivités locales qui ont adhéré assez massivement à notre observatoire. Et donc, nous organisons des points de rencontre réguliers, 2 fois par an sur Caen et sur Rouen, où tous les acteurs de notre profession ainsi que les collectivités se retrouvent pour des séances de restitution et qui sont aussi des lieux de partage privilégiés autour de notre activité. L'observatoire comporte au total une 50aine de membres, une 40aine de promoteurs et d'aménageurs. C'est intéressant puisqu'on va retrouver à la fois des acteurs locaux, des acteurs régionaux et des acteurs nationaux. Donc, ça permet de confronter nos expériences, nos points de vue. Et bien sûr, on va retrouver, donc, comme je le disais, des collectivités territoriales et aussi des acteurs institutionnels comme des banques ou des aménageurs publics.
C'est un bel exemple, en tout cas, je trouve, avec ce que disait Laurent Potier tout à l'heure et ce que là, vous nous annoncez par rapport à la mise en place de cet observatoire, la Normandie semble être un bel exemple de communication transversale entre les différents acteurs du logement.
Oui, tout à fait. C'est vraiment l'objectif qu'a cet observatoire. C'est un outil aussi de communication très important, de synergie entre les acteurs. Et c'est vrai, le fait déjà d'avoir impliqué et les promoteurs et les aménageurs permet d'avoir une vision vraiment exhaustive du marché, tout en sachant que nous couvrons à peu près 90% du territoire à travers l'observatoire.
Oui, merci pour cette présentation en tout cas. Et j'aimerais savoir tout de suite... Vous allez répondre à cette question. En quoi le marché havrais aujourd'hui est-il peut-être un peu à contre-courant de la tendance nationale?
Oui, effectivement, la tendance nationale de 2020 est un petit peu baissière dans les volumes de vente et dans les stocks. On en connaît les raisons. C'est alimenté à la fois par la Covid et puis par l'effet des élections municipales. Et c'est vrai qu'en 2020, le marché du Havre était à contre-courant de cette baisse générale avec des mises en commercialisation assez importantes et beaucoup plus importantes que les années précédentes et des volumes de vente qui ont été en forte hausse par rapport aux années précédentes. Par rapport à 2019, le marché du Havre en 2020 a été... a connu une augmentation de plus de 15%. Donc, ce qui est effectivement un peu insolite.
C'est énorme.
Ouais, c'est un peu insolite.
Alors, vous l'expliquez comment ?
Alors, effectivement, je dirais que l'explication tient dans une bonne conjonction de dates pour le marché du Havre, puisqu'à la fois, on a une ZAC importante, qui est la ZAC Dumont-Durville, qui a mis sur le marché plusieurs programmes immobiliers. Et il y a eu également deux programmes phares, quand je dis phares, des programmes un peu exceptionnels pour le Havre, par leur dimension, avec deux tours de très grande hauteur en centre-ville. Voilà. Et tous ces produits-là sont arrivés en même temps sur le marché du Havre en 2020. Et ces programmes-là ont connu un véritable succès commercial, permettant de…
Contre toute attente ?
Non, pas contre toute attente, puisque les opérateurs, les promoteurs qui se sont lancés dans cette aventure avaient des convictions fortes et ont bâti vraiment de jolis programmes. Mais le fait que ces deux programmes-là se retrouvent en même temps sur le marché, ça crée vraiment un effet dopant très très fort. D'ailleurs, c'est un effet aussi qui a dopé les prix de vente, puisque c'est des programmes de standing avec des bons niveaux de prestations. Et donc du coup des prix élevés, donc voilà, tout ça mis bout à bout donne des statistiques.
Mais quand vous dites des prix élevés, ça correspond à quoi concrètement?
On est sur des prix qui sont à plus de 4 500 € du mètre carré, qui sont des prix qui sont assez au-dessus de la moyenne des prix du Havre observés sur les années précédentes.
Oui. Merci beaucoup Guillaume Basile, on le rappelle, vice-président d'Olonne, l'Observatoire régional. Et j'aimerais qu'on retrouve tout de suite Christophe Desmouliers pour nous parler un petit peu de sa vision sur les quelques minutes qui nous restent, notamment en tant que promoteur, là pour le coup, je ne parle pas au président de la FPI, je parle au promoteur, sa vision des espaces partagés. Les immeubles, puisque je crois que vous avez une forte appétence en plus de l'art pour ces espaces partagés.
Alors, au-delà, juste pour finir sur Olonne, je pense que c'est au-delà de la FPI et de la courroie de transmission en Normandie, en tous les cas de la FPI nationale, et qu'Olonne est vraiment l'endroit où on partage est presque plus important que la FPI aujourd'hui. Et c'est l'occasion de rencontrer tous les acteurs, et c'est l'occasion ici également de faire des prospectives et qui nous font dire qu'aujourd'hui, nos clients sont en train de changer. La première chose qui change, c'est que on a toujours peur de l'indicateur investisseur dont vous parliez au début de l'opération, au début de notre émission, mais aujourd'hui, nos jeunes n'ont pas obligatoirement envie d'être propriétaires de leur logement, mais ont besoin justement de pouvoir bouger, de pouvoir avoir des immeubles neufs et peut-être avec beaucoup des espaces partagés. Ils feront leur patrimoine en investissant par ailleurs dans d'autres immeubles peut-être. Et donc, quand les politiques aujourd'hui nous mettent à la figure ce taux important de vente investisseur, je crois que c'est aussi un changement de vie. Évidemment, dans le logement, nous suivons les tendances liées au coworking, par exemple, où on va retrouver des espaces de travail qui vont être communs. Alors, ça ne se fait pas dans toutes les opérations aujourd'hui, mais ça se fait dans les opérations les plus importantes. Et les coworking sont assez surprenants dans nos opérations parce que moi, j'ai fait, par exemple, dans une opération, un salon qui est attenant au hall et c'est devenu naturellement un coworking alors qu'on pensait que ça allait être un salon. Et c'est là où les gens travaillaient, voire même recevaient. Évidemment, il y a toute la panoplie des jardins partagés, des serres partagées sur le toit, d'espaces qu'on va réutiliser, ce qu'on appelait la cinquième façade hier, en fait, va devenir des rooftops. Et tout ça est parti, et je pense que tout ça est parti de manière pérenne. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous, une fois que nous avons livré l'immeuble, nous avons fait une grosse partie de notre travail, et que derrière, il faut gérer tout ça. Et je donne toujours un exemple. J'ai fait une opération avec un jardin fruitier partagé, et les fruits pourrissaient sur l'arbre. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait juste pas expliqué au propriétaire ou au locataire de l'immeuble qu'il pouvait se servir. Et une fois qu'on l'a dit, c'est devenu un lieu de rassemblement et c'est devenu un lieu de partage. Et les fruits ont été mangés, ce qui était une bonne chose.
C'est une très très jolie histoire que vous nous racontez là par rapport à ce jardin fruitier qui, je trouve, est une excellente idée. C'est vrai qu'en ce moment, on ne peut plus échapper à ces espaces partagés, à la notion de coworking.
On a l'impression que c'est moderne, mais c'est le retour aux vraies valeurs, en fait.
Absolument.
Finalement, le potager partagé existait.
Ouais, ça permet de faire des économies aussi.
Bien avant la crise. Ouais. Effectivement. Maintenant, sur le plan purement... alors c'est génial parce que vous construisez des immeubles, vous mettez ces espaces partagés, les gens ont un peu de mal à s'en saisir, c'est ce que vous avez pu remarquer, mais quel problème, quel frein vous avez pu observer au-delà de ça dans la gestion de ces espaces-là?
Alors le vrai problème, c'est que quand on a un gardien, ce qui se passe dans les opérations, on va dire traditionnellement plus de 80 logements, c'est assez facile à gérer. Le vrai problème se passe dans les plus petites opérations où mettre un gardien serait trop cher au niveau des charges. Donc ça veut dire que on est en train de rechercher une fonction avec certains syndics qui est une fonction un peu de coach ou quelques heures une personne pourrait venir. On a fait par exemple aussi une salle de sport où on a associé un coach sportif en fait quelques heures qui est aux frais évidemment de chaque utilisateur, et ça bizarrement pas très bien fonctionné. Donc il faut aussi tester les choses pour les voir, et il faut qu'on ait ce retour, et ce retour nous l'avons par nos acquéreurs évidemment, mais par nos partenaires qui sont les syndics de copropriété.
Très bien, bon, on a bien compris en tout cas le message. Dernière petite question en vraiment très très rapide.
Bien
donc
sûr.
Rouen candidate, comme vous nous l'avez dit, pour être la capitale européenne de l'art, et vous m'avez informé en off de cette émission que c'était également la troisième ville la plus attractive de France, et là j'ai été très surprise. Pouvez-vous nous en dire deux mots?
Alors, au mois d'octobre ou novembre, on a un certain nombre de revues qui nous ont, avec bonheur, élu troisième ou quatrième ville la plus attractive de France. Je pense que Rouen a beaucoup bougé ces dernières années, que la ville a redécouvert la Seine, et que cette ville qui était une ville ancienne avec l'image, évidemment, du Gros Horloge, est devenue une ville qui vit avec un fleuve. Et nous construisons autour de ce fleuve, ce qui est assez rare et voire unique, même en Europe. Donc, je pense que cette ville a modifié complètement cette image et que malheureusement aujourd'hui, tout à l'heure on parlait d'une phrase d'Alexandra qui disait « le logement le plus vert pour certains est de ne pas construire », et ce qui est bien dommage. Et j'ai peur que les politiques actuelles, en fait, où on essaie de moins construire, effectivement, ralentissent cette attractivité qui évidemment est l'issue aussi de la Covid, où on est une ville qui reste, même si le train n'est pas le plus efficace, qui reste à 1h15 de Paris.
Voilà, c'était une déclaration d'Alexandra François-Cuxac, qui est présidente de la FPI France, il faut le rappeler, hein, déclaration d'il y a quelques heures.
Eh bien, je suis désolée de devoir jouer les rabat-joie. J'ai été ravie de partager cette émission à vos côtés. Malheureusement, elle touche à sa fin. Donc, on le rappelle, on avait Christophe Desmouliers, Laurent Potier et Guillaume Basile avec nous aujourd'hui dans cet hebdo des régions. Cher Christophe, on se retrouve très vite pour un prochain numéro.
Dans une semaine, peut-être.
Alors, pas la semaine prochaine, mais très rapidement, je vous le promets.
Vous me manquez déjà.
On vous souhaite une excellente journée.
Merci
à tous. À très bientôt sur Radio.
À bientôt.
L'hebdo des régions avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Une émission à réécouter et télécharger sur radio.imo, l'application mobile radio.imo et tous les agrégateurs de podcasts.